Bonsoir à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. C'est l'émission Sporama Suivez au Afrique, comme chaque semaine. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Mpatine depuis Boïkon au Bénin. Bonsoir Élisée. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Et donc on va essayer de retrouver Thierry Kamboundi, Amdine Sy, Amine Birouk, Joseph Valéry Fotso d'ici là. Mais en attendant, sachez que l'Égypte et l'Afrique du Sud sont les deux pays candidats en lice pour accueillir la CAN 2019 en remplacement du Cameroun. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à avoir accueilli une Coupe du Monde en 2010. Elle a déjà organisé la CAN à deux reprises en 1996 et en 2013, année où elle avait déjà remplacé la Libye, organisatrice initiale, qui s'était retirée en raison de sa grande instabilité politique et sécuritaire. La Fédération égyptienne de football avait de son côté annoncé sa candidature via un communiqué publié sur les réseaux sociaux jeudi. C'est désormais chose fait. La candidature avait rapidement été confirmée donc par le gouvernement égyptien. On a également Amdine Sy dans l'Ohio ici aux États-Unis. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Alors Élisée, je commence par vous. Deux candidatures assez sérieuses, on va dire. Élisée, vous êtes là?
Oui, vous l'avez dit. Oui, Yacouba, vous me recevez?
Oui, allez-y.
Ok. Deux candidatures sérieuses, il faut le dire, puisque l'Afrique du Sud, c'est du lourd, hein, c'est du lourd pour avoir abrité la Coupe du Monde, on se rappelle, en 2010, avec de grandes infrastructures, notamment des hôtels 5 étoiles. En tout cas, c'est un pays qu'on ne peut pas comparer aux pays européens, donc c'est un grand pays du continent africain, une grande économie. Et l'Égypte aussi n'est pas les moindres, il faut le dire, puisque c'est aussi un grand pays en Afrique, même si secoué ces dernières années par quelques situations politiques, c'est-à-dire que c'est un grand pays qui a déjà abrité la Coupe d'Afrique en 2006 avec de très grands stades, des stades qui ont la capacité d'accueillir jusqu'à 100 000 places. Hein, c'est un peu ça, la particularité en Afrique, hein, c'est-à-dire que quand l'équipe qui reçoit ou bien le pays organisateur, quand le pays organisateur ne joue pas, eh bien les stades ne sont pas pratiquement remplis, mais en Égypte, on verra de très grands supporters qui vont se déplacer pour suivre les matchs, puisque c'est un pays de football, c'est le pays le plus titré, et ça va se jouer pratiquement les deux équipes. Moi, je ne sais pas lequel va gagner, mais en tout cas, j'ai un petit penchant pour l'Afrique du Sud, puisque c'est un habitué. Et sur les cinq dernières CAN, l'Afrique du Sud a déjà accueilli deux fois.
Alors, Amdine, on parle des chances de ces deux pays-là pour accueillir la CAN 2019. Élisée dit qu'il a un penchant pour l'Afrique du Sud. On va se rappeler qu'il a récemment organisé cette CAN-là, notamment en 2013, lorsque la Libye s'est désistée. Alors, la nation arc-en-ciel aussi avait sauvé justement cette CAN en 2013. Pensez-vous que ce facteur puisse être un avantage pour le pays des pharaons qui, on va le dire, sa dernière CAN remonte à 2006?
Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais avec la CAF, on ne peut jurer de rien, puisque après les rebondissements, on peut même s'attendre à un tremblement de terre. Moi, je pense que même il ne devait pas y avoir un appel à candidature, parce que le délai est tellement court que la CAF devait quand même voir un pays aller négocier avec ce pays. Je pense que ce serait été plus sage. Mais bref, comme ils ont choisi cette méthode, ils ont choisi quand même des appels à candidature. Ils ont eu affaire à deux grandes nations, quoi, parce que l'Égypte et l'Afrique du Sud, comme vous l'avez dit, c'est deux grands pays de football avec des infrastructures très modernes. J'ai eu la chance de faire ces deux pays, puisque j'étais à la CAN déjà en 2006 lorsque l'Égypte l'a organisée et l'a remportée. C'était une CAN extraordinaire avec de très beaux stades. Il y avait aussi beaucoup de monde autour des matchs de football, mais comme vous le savez, de 2006 à 2018, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, puisqu'il y a eu le printemps arabe. Donc, il reste quand même l'Afrique du Sud qui a eu à gagner la Coupe du Monde, qui a eu à sauver la CAF en 2013. Donc, ballotage un peu favorable à l'Afrique du Sud. Mais moi, j'aurais préféré que cette CAN se joue quand même au niveau de l'Afrique du Nord. Et je ne comprends pas jusqu'à présent, pourquoi quand même le Maroc s'est désisté, alors que beaucoup pensaient, avec tout ce que le Maroc a fait pour la CAF, je pensais que vraiment la CAF allait se dérouler là-bas. Maintenant, comme disent les Anglais, le 19 janvier n'est plus très loin, on va attendre et on va être édifié, Yacouba.
On aura sans doute un début de réponse, bien sûr, avec Amine Birou, qui est en direct depuis Casablanca. Bonsoir, Amine. Amine, vous êtes là?
Oui, oui, je vous reçois. 5 sur 5. Bonsoir, Yacouba.
Alors, le Maroc était annoncé comme potentiel remplaçant du Cameroun pour accueillir le tournoi. Finalement, le Royaume a annoncé qu'il ne sera pas candidat. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Ce qui s'est passé, c'est que la décision vient des plus hautes autorités du pays. Je suppose qu'il y a une étude ou une, je dirais, des rapports qui ont été envoyés aux plus hautes autorités de l'État concernant la politique extérieure du Maroc. Il faut rappeler que le Maroc revient, réintègre la famille africaine, la famille de l'Union africaine, et visiblement, l'omniprésence du Royaume du Maroc pourrait ou pouvait susciter des jalousies dans le continent ou des problèmes par rapport à l'affaire de son intégrité territoriale. Pour revenir à la décision du ministère, ou plutôt à la sortie du ministre des Sports, il a affirmé que le Maroc n'était pas candidat à l'organisation, qu'il y avait un problème de logistique, de budgétisation de la compétition. C'est quand même en contradiction avec ce qui avait été, décidé en 2017, fin 2017, à propos du CHAN, on rappelle que le Maroc n'était pas candidat, qu'il était venu sauver les meubles de la CAF. Et puis, je suppose que pour le ministère, il y a un événement sportif d'envergure africaine beaucoup plus important, en tout cas selon les dires du ministre de la Jeunesse et des Sports, lors d'un entretien livré à des confrères. Il s'agit des Jeux africains que le Maroc a récupérés au détriment de la Guinée équatoriale ou en remplacement de la Guinée équatoriale, et qui nécessiteront la présence de 50 pays ou 54 pays africains en plus de 18 disciplines sportives. Donc voilà en tout cas les arguments qui ont été cités. C'est pas très convaincant, ce revirement, mais il n'en demeure pas moins que le Maroc n'a jamais annoncé qu'il était candidat à quoi que ce soit, et ça reste la parole des autorités sportives de tutelle du football. Pour l'instant, la Fédération marocaine de football, c'est la politique de Motus et Bouche Cousu, en attendant peut-être une sortie du président, qui est le troisième vice-président de la CAF, et qui aura lieu certainement après la réunion du comité exécutif à Dakar le 9 janvier prochain.
Merci bien, Amine. On va juste rappeler que cette CAN à 2019 pose vraiment problème. Et donc, le président de la CAF, Ahmad, avait en temps annoncé un décalage des différentes éditions, un décalage qui permettrait par exemple au Cameroun d'abriter la CAN 2021. La Côte d'Ivoire, qui était initialement désignée pour accueillir le tournoi en 2023. Alors, Thierry, bonsoir. Alors, Thierry, finalement, la Fédération ivoirienne de football mécontente a saisi le tribunal arbitral du sport. Il fallait s'y attendre. Non, on va essayer de reconnecter et de retrouver Thierry un peu plus tard. Alors, Élisée, je le disais, la Fédération ivoirienne de football mécontente a saisi le tribunal arbitral du sport pour se faire établir dans ses droits. Il fallait s'attendre quand même à cette réaction de la part de la Côte d'Ivoire.
Oui, cette réaction s'est intervenue juste après que Ahmad ait annoncé sa visite en Côte d'Ivoire, et puisque l'homme a demandé aux autorités ivoiriennes qu'il va passer en Côte d'Ivoire, histoire d'expliquer un peu comment ça s'est passé, puisque même aujourd'hui, il a encore dit, la Côte d'Ivoire ne s'est pas vu retirer cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est de permettre à ces pays-là d'être prêts pour pouvoir bien accueillir cette compétition africaine, notamment d'abord le Cameroun qui a été décalé un peu, puisque normalement le Cameroun devait organiser la CAF de 2019, mais décalé à 2021, puisque la CAF sent que le Cameroun sera prêt en 2021. Maintenant, est-ce que la Côte d'Ivoire sera prête en 2021? C'est la question qu'il faut se poser, puisque Ahmad l'a dit, que rien ne prouve si réellement la Côte d'Ivoire sera prête en 2021. Mais les autorités ivoiriennes l'ont dit, ils ont mis ils ont mis tous les moyens à leur disposition, histoire d'être prêts, puisque la Côte d'Ivoire aussi a des infrastructures qui, il faut parler des hôtels, vous le savez très bien, c'est un très grand pays de football et c'est un pays qui a d'énormes infrastructures. Donc, c'est-à-dire que les Ivoiriens se sentent, sont en train de dire qu'ils seront prêts pour la CAF 2021. Maintenant, on attend la réaction du tribunal arbitral du sport. Est-ce que l'État ça va donner raison aux Ivoiriens? Même si l'État donnerait raison aux Ivoiriens, quelle sera la réaction de la CAF, puisque n'oublions pas que c'est la CAF qui gère bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations.
On attendra bien sûr de voir. Le pays hôte de la CAN 2019, prévu du 15 juin au 13 juillet, sera connu le 9 janvier à Dakar, mais bien avant la veille, 8 janvier, on saura qui est le meilleur footballeur africain de l'année. Ce sera à la faveur des CAF Awards, toujours dans la capitale sénégalaise. La CAF a publié la liste des 10 finalistes. Parmi eux, on retrouve sans surprise les 3 finalistes de l'année dernière, le tenant du trophée Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang. Alors Amine, quelle analyse faites-vous de cette liste des 10 finalistes pour le meilleur joueur, le titre de meilleur joueur africain de l'année?
Visiblement, quelques absences de marque. Le Marocain Ziyech de l'AS Amsterdam, Kalidou Koulibaly de Naples, quelques invités de dernière minute, comme Onyango, qu'on retrouve régulièrement, le gardien ougandais, mais quelques constantes aussi, les 3 finalistes de l'année dernière, avec quasiment certainement le même ordre au classement, c'est-à-dire Mohamed Salah qui part favori, eu égard au parcours magnifique de Liverpool, Sadio Mané qui pourrait le talonner ou le supplanter à la toute dernière minute, tout dépendra des votes des membres du jury, et puis Pierre-Emerick Aubameyang à un degré moindre. Ce qui comptera, et les paramètres de lecture sont importants, c'est la saison européenne de Liverpool, et là, les deux sont à égalité, et puis le parcours en Coupe du Monde avec un léger avantage pour Sadio Mané. Maintenant, on ne sait jamais, Mohamed Salah a été impressionnant, il a marqué une quantité de buts qui fait de lui le principal favori à sa propre succession. Je ne vois pas visiblement qui pourrait lui ravir cette place, à moins qu'un dernier rush de Sadio Mané le permette de devenir encore une fois, de redevenir tout simplement le numéro 1 en Afrique.
Alors Thierry, on a renoué avec Kinshasa. Amine annonçait Mohamed Salah comme favori selon plusieurs observateurs. Il y a une absence aussi qu'a souligné Amine, c'est celle de Kalidou Koulibaly par exemple, défenseur sénégalais de Naples. Est-ce que cela vous étonne? Thierry? Décidément, on n'aura pas Kinshasa ce soir. Alors Amdine, je me tourne vers vous. Une absence remarquable, et remarquée d'ailleurs sur cette liste, c'est celle de Kalidou Koulibaly, défenseur central de Naples.
Tout à fait. D'ailleurs, lorsque la CAF a publié la liste des 10 nominés, les observateurs n'en revenaient pas, parce que la non, quand même, sélection de Kalidou Koulibaly a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On ne comprend pas comment le défenseur sénégalais de Naples, qui a été époustouflant durant toute la saison avec son club Naples et l'équipe nationale du Sénégal, ne fait pas partie de ces 10. Au moment où le Marocain Benedi Benetia et Mehdi Benetia est sur la liste, alors que Benetia est en train de surer le banc au niveau de la Juventus de Turin, et Kalidou Koulibaly a été tout simplement désigné comme meilleur défenseur de la Serie A. Ça étonne les observateurs, mais comme je le dis tout le temps, avec la CAF, on ne sait pas à quel sens jouer, parce que les choix-là, on ne les comprend pas. Mais bref, Kalidou Koulibaly est absent, mais comme l'a dit Amine Birouk, le tuyau est vraiment logique, car Salah va certainement se succéder à lui-même, alors que ça demande pour le talonner et au moyen se classera en troisième. En tout cas, suivre le podium, il n'y a pas de doute, ce sera ces 3 jours, mais l'absence encore de Kalidou Koulibaly fait vraiment parler, fait je même jaser, devrais-je dire, Yacouba.
Merci bien, Amdine. On va réessayer encore de joindre Thierry pour la troisième fois. Les nommés pour le trophée d'entraîneur de l'année sont le sélectionneur français du Maroc, Hervé Renard, celui du Sénégal, Aliou Cissé, l'entraîneur de l'Espérance de Tunis, Mouane Chabani. Alors Thierry, là c'est quand même serré. Thierry, décidément, on n'aura pas Thierry ce soir. Alors Élisée, quelle analyse vous faites de cette liste de 3 en course pour le titre de meilleur entraîneur africain de l'année?
Oui, Yacouba, il faut le dire, parce que déjà, nous avons vu la bonne prestation de l'Espérance de Tunis, même si ça ne va pas bien à tout le monde des clubs, puisque déjà, éliminé dès son premier match par les Émiratis d'Al-Ain. Il faut dire, c'est quelqu'un qui a abattu un travail remarquable. D'abord, le club qui a quitté très loin, d'abord après avoir été battu, on se rappelle, lors de la finale, à l'extra-bizarre du côté de d'Alexandrie, eh bien, tous les deux ont pu renverser la tendance en remportant le trophée. Maintenant, il faut dire que la CAF a souvent tendance à choisir les entraîneurs, surtout des équipes nationales. Donc, c'est-à-dire que ça va être un peu compliqué pour l'entraîneur de l'espérant de tennis dans la vie. Même chose là-dessus, la CAF a fait un très bon choix. C'est bien sûr d'avoir choisi ces trois entraîneurs qui se sont bien illustré lors de cette saison 2017-2018.
Vous suivez Sporama, suivez Ouafrique, l'actualité sur le continent, c'est aussi l'élection à la présidence de la FECAFOOT. Pour en parler, notre confrère de la radio Siantou, Joseph Valéry Fotso, est avec nous. Rebonsoir. Joseph Valéry Fotso, ah, vous nous entendez?
Oui, je suis là, vous m'écoutez, bonsoir.
Bonsoir. Alors, Seydou Mbombo Djoya a été élu lors de l'Assemblée générale élective avec 46 voix sur 66. Candidat est soutenu par Samuel Eto'o. Le dirigeant a dévancé l'ancien international Joseph Antoine Bell, 17 voix, et Niamsi Mongwe, 3 voix. Géré par un comité de normalisation de la FIFA depuis l'été 2017, après l'avoir déjà été, entre 2013 et 2015, la FECAFOOT achève ainsi son processus de retour à la norme. Alors Valérie, dites-nous, est-ce que les Camerounais s'attendaient plus ou moins à ce résultat des votes?
Oui. Tout de go, je vous dis oui par rapport déjà à ce qui se dessinait au niveau, n'est-ce pas, du paysage footballistique au Cameroun. Vous le savez, monsieur Toumbi Aoko Sidiki, qui était l'ancien président, a été contesté, fortement contesté par une clique qui estimait qu'il avait été mal élu. Alors, au moment où Toumbi Aoko n'a pas déposé candidature, eh bien, on voyait très mal comment est-ce que Joseph Antoine Bell, qui depuis 1996 est en train de briguer un mandat, pouvait donc détrôner une équipe qui est en place. Et je le dis en précisant bien sûr que Seydou Mbombo Djoya, en 2013, en juin 2013, était premier vice-président de la Fédération camerounaise du football. Et Yacouba, certains estiment que si Seydou Mbombo Djoya avait accepté, en tout cas avait respecté les textes, et aujourd'hui, on n'en serait pas là. C'est-à-dire que les 6 ans perdus par le Cameroun, un tout petit peu à sa responsabilité à l'époque, il avait estimé que c'était un panier à crabe et qu'il ne pouvait pas assurer la gestion de cette fédération. Au jour d'aujourd'hui, il revient et accepte donc le challenge soutenu par Samuel Eto'o. Donc, au jour d'aujourd'hui, je puis vous rassurer que c'était prévisible et on voyait mal Joseph Antoine Bell battre naturellement Seydou Mbombo Djoya.
Justement, Valérie, on sait qu'il y a eu beaucoup de dissensions qui se sont exacerbées avant ces élections, notamment entre Eto'o fils, soutien d'un Djoya, et les anciens footballeurs, vous citiez le nom tantôt, Joseph Antoine Bell et Roger Mila. Ne faut-il pas craindre que ces désaccords profonds réaffectent le football camerounais?
Écoutez, j'ai même envie de vous dire qu'on est habitué à ces mésententes. Pour 2010, c'est Roger Mila qui n'est pas d'accord avec les méthodes de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui fait une sortie sur les médias, qui frappe du poing sur la table, qui dit il va juste à prononcer le mot, lui c'est qui. Et puis après, il y a réconciliation, etc. Joseph Antoine Bell, il l'appelle papa. Roger Mila l'appelle papa. Et demain, on dit il ne faut plus qu'il m'appelle papa, parce que, etc., etc. Donc, je dis, il faut qu'on fasse très attention à ce qui est en train de se passer. Ce sont des footballeurs et il faudrait, naturellement, en tout cas, le public sportif, le peuple camerounais, en tout cas les footballeurs, pour ceux qui suivent le football au quotidien, sont en train de voir un tout petit peu une bataille entre finalement ces footballeurs, mais qui sert plutôt un couloir, je veux dire un couloir en or aux non-footballeurs, à ceux qui n'ont véritablement pas pratiqué et qui peuvent avoir une certaine qualité en termes de gestion.
On vous a très bien compris. On vous a très bien compris, Joseph Valéry Fotso. Je rappelle que vous êtes le chef du service des sports à la radio Siantou à Yaoundé. Merci d'avoir participé dans cette émission Sporama. Nous retrouvons les pelouses pour parler des Coupes africaines dont les 16e de finale allées se sont jouées le week-end écoulé. Nous commençons bien évidemment par la Ligue des Champions avec ce sans faute pour les représentants de la RDC. Thierry, à nouveau, 15 jours après son échec en finale de la Coupe CAF, la SV Club a parfaitement débuté sa Ligue des Champions en écrasant à Kinshasa FC Bantou de Lesotho 4-1.
Ah oui, c'est une équipe de V-Club relookée avec plusieurs absents par rapport à l'équipe que Florent Ibenga composait à l'occasion de la finale de la Coupe de la Confédération, qui a assuré à domicile après 20 premières minutes plutôt difficiles face à une équipe compacte, surtout avec un bloc bas. L'association sportive V-Club a réussi à débloquer la situation par Kazadika Sengou qui revient à la maison, puis Jean-Marc Makusu Mundele, le meilleur buteur de l'ASV Club en championnat comme à la Coupe de la Confédération la saison dernière, y est allé de son doublé avant que Muzungu, le tout jeune qui monte encore, qui a une saison pour confirmer, a ajouté la série sur le gâteau. Malgré ce but concédé par Nelson Lukong, ce but de cette formation bantou, donc l'association sportive et club a fait le gros du travail à la maison, mais il faut aller terminer le travail à l'extérieur. Ça n'a par contre pas été aussi prolifique en termes de buts pour le tout puissant Mazembe Anglebert, les Corbeaux qui pour leur retour en Champions League ne se sont contentés que d'une courte victoire 1-0 face à Zesco United, une formation dont j'annonçais déjà la qualité la semaine dernière. Je vous disais déjà que cette équipe connaît très bien l'équipe de Mazembe, qu'elle a joué à plusieurs reprises à l'occasion des nombreux stages des Corbeaux en Zambie, donc c'était un match assez disputé, même si les Corbeaux ont manqué une tyrielle d'occasion tout de même. Donc Mazembe va se déplacer avec pour objectif d'aller défendre ce maigre avance, but inscrit à la maison, cette maigre avance, j'allais dire. Mais ils se sont montrés confiants après cette rencontre, malgré ce petit but marqué à la maison. Ces deux équipes se connaissent, ces deux pays se connaissent, ce sont des pays voisins. Donc Mazembe a toutes ses chances, malgré ce match, qui n'a été réussi qu'à 55 ou 60% à la maison, d'aller assurer sa qualification pour les prochains tours en territoire zambien.
On va rappeler qu'il y avait aussi un duel ouest-africain entre le Stade malien et la SEC Mimosa. Le club de Bamako a été surpris au bout de temps additionnel par les jaunes et noirs avec un but d'Ahmed Touré à la 92e minute. Hold up parfait pour les Ivoiriens, même si l'entraîneur Amani Yao César a joué la carte de la prudence, bien sûr, en fin du match pour le match retour le week-end prochain à Abidjan. Il y avait des fortunes aussi diverses, on va dire, pour les clubs marocains. Alors Amine, très rapidement, le Wydad s'est imposé 2-0 face au Sénégalais de Jaraf, tandis que Tanger s'est incliné 2-0 à Saoura en Algérie.
Une défaite de Tanger qui a été payée cash peut-être à cause de la naïveté des joueurs de Tanger, le manque d'expérience. Ils ont résisté pendant 60 minutes tout en ne cherchant pas à marquer ce but à l'extérieur qui pouvait peser très lourd dans la balance dans l'optique du match retour. Quant au Wydad Casablanca, prime à l'expérience avec le retour sur le banc de touche de l'entraîneur emblématique Fawzi Benzarti. Deux buts, l'un à la 18e minute Sinijibour, l'autre à la 82e par Nahiri. Il faudra se méfier de cette équipe de Djaraf qui a bien résisté à Casablanca et qui pourrait montrer d'autres atouts beaucoup plus offensifs au match retour à Dakar.
Merci bien, Amine. Alors, Amdine, la mission s'annonçait quand même compliquée pour le Jaraf devant le Wydad, qui recevait en plus. Très rapidement.
Oui, vous avez raison, je l'avais dit, le Jaraf est tombé sur un gros morceau, le WAC qui fait partie des meilleures africaines. Donc, ce n'est que justice, puisque les confrontations entre Marocains et Sénégalais ça se termine toujours par une victoire marocaine, parce que depuis l'avènement de cette compétition en 2004, c'est la sixième fois qu'un club marocain s'impose devant un club sénégalais. Donc ce n'est que justice, le Jaraf est tombé face à plus fort que lui. Maintenant c'est un match football, il reste une seconde manche, et comme en sport on peut rêver, et plus particulièrement en football, rêvons, le Jaraf va rêver et le Jaraf va essayer de créer le miracle à Dakar pour s'imposer face au Wydad. Mission très difficile mais pas impossible.
Merci bien, Amdine. Ça sera en même temps votre mot de la fin. Mission donc difficile mais pas impossible. Vous étiez ici avec nous dans l'Ohio, aux États-Unis. On avait également Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. Thierry Kamboundi de Top Congo FM était avec nous. Jules Valentin Ngoué n'a pas été bien sûr des nôtres ce soir. On le retrouvera lundi prochain sans doute. Élisée Oumpatine est intervenue depuis Boïcon au Bénin. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Mr. Cheng, Monsieur Cheng, j'espère bien que je prononce bien. Yacouba Ouédraogo vous a présenté cette émission de Sporama. Et comme le disait un doyen du journalisme sportif africain, vive le sport, on se retrouve lundi prochain.